l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Nous partons pour les deux prochains épisodes en Iran, où la mort de Mahsa Jina Amini a fait naître une révolte de premier ordre. Dans cette première partie, nous décryptons les racines de cette colère et les enjeux portés par la jeunesse iranienne. Pour nous aider, deux femmes iraniennes et franco-iraniennes, Shala Shafik, sociologue et écrivaine, qui a publié notamment Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, et Azadeh Kian, sociologue, directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes, et autrice de Femmes et pouvoir en Iran. Vendredi 16 septembre, à Téhéran. Mahsa Jina Amini est arrêtée par la police de la moralité pour quelques mèches de cheveux mal recouvertes par son voile. Elle est emmenée et ne réapparaît qu'à l'hôpital, plongée dans le coma, où elle décède 3 jours plus tard sans s'être réveillée. Si des rassemblements sporadiques se tiennent déjà dans la capitale iranienne, c'est dans la ville natale de Jina, à Saqqez dans le Kurdistan, que crépite la première étincelle. À la police qui exige que l'enterrement se fasse dans la nuit même où le corps est remis à la famille, celle-ci oppose une fin de non-recevoir. Au contraire, elle politise les funérailles en donnant la parole aux femmes kurdes en lutte. Et c'est là que résonne pour la première fois le cri « Femme, vie, liberté ». Aussitôt, des manifestations se tiennent un peu partout et le slogan est repris en masse. Des femmes de tout horizon retirent leur voile, le jettent au feu et se coupent les cheveux en hommage à Jina. Par ces gestes hautement symboliques, les Iraniennes expriment leur profond ressentiment envers l'apartheid de genre qui régit leur vie au quotidien. Un ensemble d'appareils juridiques, législatifs et culturels qui s'imposent à elles en toutes circonstances. L'obligation de porter le voile contient symboliquement toutes les autres oppressions de genre via lesquelles le pouvoir iranien inscrit sa marque sur le corps des femmes. Dans son essence, le meurtre de Jina est porteur de symboliques multiples. D'abord, parce que la jeune femme de 22 ans était kurde. Son prénom kurde, interdit par l'État iranien, était Jina, et c'est ainsi que nous l'appelons dans cet épisode. Comme le dit Chorama Karemi dans La Déferlante, l'accent kurde de Jina, sa manière d'être et le fait qu'elle ne soit pas de Téhéran en ont fait une cible privilégiée pour la police des mœurs, alors qu'elle n'était pas plus mal voilée que la plupart des jeunes femmes de Téhéran. Les lois de moralité sont appliquées en effet de manière très arbitraire, touchent beaucoup plus le commun que l'élite et les quartiers riches de Téhéran, et s'abat en particulier sur celles qui n'ont pas les codes de la capitale, ne savent pas comment éviter les contrôles ou comment négocier s'ils arrivent. Ce meurtre est bien évidemment l'expression de l'oppression de genre, mais il est aussi l'expression de l'oppression sociale et économique, et celle de l'oppression coloniale et impérialiste que l'État iranien impose au Kurdistan, et à toutes les nations minoritaires qui vivent sous sa coupe. On écoute Azadeh Kian.
Il ne faut pas oublier que le voile en Iran est obligatoire et que c'est inscrit dans les lois, mais son importance est que c'est le fondement idéologique du régime islamique. Si les femmes ou les jeunes femmes ont commencé aujourd'hui à enlever leur voile et parfois le brûler, c'est pas le voile qui brûle. En réalité, c'est le symbole par excellence de l'idéologie islamiste. C'est effectivement le caractère obligatoire du voile en Iran qui a été sacralisé et qui a été considéré par le régime comme vraiment le symbole par excellence de son idéologie politique.
Comme l'affirme aussi Shala Shafik, Il y a dans l'essence même de ce soulèvement une clé de compréhension des dominations multiples exercées par le pouvoir iranien.
La dimension féministe de mouvement révolutionnaire en cours existe bel et bien, mais on ne peut pas en avoir une interprétation essentialiste. On ne peut pas réduire ce mouvement révolutionnaire à une révolution féminine. C'est une révolution du peuple contre un pouvoir qui base tout son système répressif sur la sacralisation des discriminations et des violences sexistes et sexuelles. En réprimant les femmes, le pouvoir a mis en place toute une hiérarchie discriminatoire qui violente et domine toute la population. C'est pourquoi d'ailleurs ce mouvement démontre une prise de conscience de cet aspect-là, de cette nature répressive de pouvoir, et ça mobilise toute la population. En même temps, c'est une leçon au monde entier. Nous voyons à travers ce mouvement révolutionnaire que la question des discriminations sexistes et sexuelles ne concerne pas que les femmes. Ce sont des questions qui sont au centre du modèle social et politique. Et c'est ça qui est très, très intéressant dans l'expérience en cours en Iran.
C'est ce qu'exprime de manière si intéressante le slogan « Femme, vie, liberté ». Ce slogan est né dans le Kurdistan, d'abord dans la partie sous occupation turque. Il émane d'une prise de conscience progressive des révolutionnaires kurdes depuis les années 90. On ne peut pas progresser vers une société sans domination, sans remettre en cause l'oppression subie par les femmes. Donc, il est indispensable que la libération féminine soit l'un des piliers de la révolution des peuples. Le lien intersectionnel existe ainsi dans la révolution kurde, et au Rojava se vivent des mises en pratique quotidiennes d'expérimentations sociales sans domination. L'irruption d'un tel slogan en Iran démontre la conscience qu'a la jeunesse iranienne des oppressions qu'elle subit et des aspirations nouvelles qui l'animent. Shahla Shafik.
Le slogan « Jeune, jeune, Azadi » a été un slogan emprunté du mouvement kurde de la Turquie. Ça a été traduit tout de suite en langue persan aussi. Donc, dans les manifestations, ces deux langues ont été côte à côte. Jeune Jian Azadi, Zan Zendegi Azadi. Les Kurdes et les autres composantes de la population iranienne sont dans une unité. Jina était une femme, une jeune femme kurde, bien sûr, mais il y a eu aussi après Nika Shakarami, qui était une jeune femme d'une autre région de l'Iran, Lorestan. Et après, il y a eu des autres victimes. Donc, c'est un mouvement qui comprend toute la variété des populations iraniennes. On entend le désir de l'unité face à ce régime répressif. Unité, unité, unité. C'est un mouvement qui voudrait être unitaire et c'est ça qui est très intéressant.
Ce cri du peuple illustre finalement dans ses mots, mais aussi dans son histoire, la réponse à ce pouvoir qui concentre et sacralise les oppressions pour diviser le peuple. Azadekian.
C'est un slogan qui, bien évidemment, revendique des revendications d'ordre féministe et la liberté en général, bien évidemment, mais en même temps qui va au-delà, justement, des groupes ethniques ou classes sociales qui existent à la fois en Iran, mais aussi en Turquie, aussi ailleurs. Ce sont des pays multiethniques et multireligieux. En Iran, vous avez, religieusement parlant, une majorité bien sûr écrasante de chiites. Après, vous avez une minorité importante de sunnites et après quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'autres minorités religieuses, chrétiennes, juives, zoroastriennes, qui sont reconnues par l'islam, et les bahaïs qui sont les plus nombreux, mais c'est une religion récente et donc non reconnue par l'islam. Et donc, les bahaïs sont très, très, très persécutés, contrairement aux autres religions qui sont officiellement reconnues. Donc, dans ce grand pays, il y a une majorité de Perses qui est une ethnie majoritaire donc. Et après, vous avez d'autres ethnies comme les Kurdes, comme les Baloutches, les Turkmènes, les Arabes, les Lors, etc. Or, l'industrialisation de l'Iran et tous les projets de développement dans ce pays, mais ça depuis le régime du Shah jusqu'à aujourd'hui, concernaient les régions centrales du pays, c'est-à-dire les régions habitées par des Perses. C'est l'ensemble de cette situation a créé énormément de mécontentement qui s'exprime dans ce slogan « Femme, vie, liberté ». Qu'on soit balouche ou qu'on soit kurde ou qu'on soit perse contestataire, on se retrouve dans ce slogan-là, même si ce slogan n'a pas pour origine l'Iran, mais a pour origine quand même la liberté et les revendications justement égalitaires.
La jeunesse iranienne porte donc avec elle la conscience de ses oppressions multiples. Et c'est très naturellement qu'elle réclame directement la chute du guide suprême et la fin du régime islamiste. Comme l'explique Marjan, étudiante iranienne en France depuis 3 ans, à révolution permanente, il ne s'agit pas que de l'obligation de porter le voile, qui est une des oppressions les plus visibles. Il s'agit de tous les droits humains, des droits des femmes, mais aussi de la situation économique. Les gens, et en particulier les jeunes gens, sortent dans la rue parce qu'ils n'ont aucun espoir d'avoir une vie meilleure, ou une vie tout court. Le contexte économique cristallise en effet la colère. L'inflation atteint 40%, le chômage est de 27% pour les jeunes et de 40% pour les femmes. Le fossé se creuse entre une population qui se paupérise et subit de plein fouet les sanctions à répétition imposées par les pays occidentaux, et d'autre part une élite qui tire tous les bénéfices d'un régime néolibéral basé sur l'industrie pétrolière. On écoute à nouveau Charles Achafik.
Par rapport à la dimension sociale, bien sûr que dans ce mouvement, il y a des contestations contre la pauvreté galopante, contre la corruption économique. En fait, le pouvoir islamiste a créé une nouvelle classe sociale, des nouveaux riches liés au pouvoir, qui, par leur lien au pouvoir, profitent des rentes et qui s'accaparent de la fortune nationale. Ce qui est intéressant, c'est aussi que toutes les classes sociales, les classes moyennes et les classes populaires, sont mises ensemble dans ce mouvement, la tête au régime.
Le mécontentement était déjà grand au sein de la société et vraiment concernait l'ensemble, je dirais, une bonne partie en tout cas de la société et beaucoup de groupes sociaux. Et donc, c'est l'ensemble de ces mécontentements auxquels s'ajoute une crise économique profonde, une pauvreté de plus en plus grande de la société. Selon les chiffres officiels, 50% de la population iranienne vit sous le seuil de pauvreté. Et selon les économistes iraniens de l'Iran, ce chiffre avoisinerait plutôt les 70 ou 80%. Tout ça associé, à ne pas oublier, à ce que j'appelle la talibanisation du pouvoir iranien et qui a vraiment resserré davantage l'étau autour des jeunes et en particulier des femmes, y compris les cartes blanches qui ont été données à cette police de mœurs pour réprimer, s'il le faut dans le sang, les femmes qui ne portaient pas le voile. On avait déjà, par exemple, vu des tas de vidéos ou des tas de femmes dans les rues qui étaient vraiment battues à même la rue, maltraitées par la police des mœurs. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on avait déjà vu une violence inouïe de l'État s'exercer contre la population, en particulier les jeunes, qui n'étaient pas des opposants politiques, mais qui voulaient juste, par exemple, ne pas porter le voile ou les laisser des mèches de cheveux dépasser, etc.
La colère est unanime. Dans les tout premiers jours, les rassemblements bourgeonnent dans plus de 90 villes. Le soulèvement est porté par cette jeunesse que rien n'arrête, qui trouve les moyens de riposter et de se rassembler à la barbe et au nez de la police. Elle parvient à sortir des images du pays, grâce au VPN et au travail des groupes de hackers, malgré les coupures du web imposées par le pouvoir. Les rassemblements sont, dans la première phase du mouvement, plutôt modestes en nombre de personnes, quoique très puissants dans leur capacité à se multiplier dans chaque quartier, dans chaque village. Ils débutent généralement par un concert de klaxons, les voitures d'abord, puis les motos. Ensuite vient la foule, quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, qui allument un feu pour fixer un front, lutter contre les gaz, et annoncer à tout le quartier, même à ceux et celles qui n'osent pas sortir, par les reflets des flammes sur les murs, « Nous sommes là, venez !» Les forces de répression sont ainsi débordées et ne peuvent pas intervenir partout en même temps, alors qu'une libération collective se joue là. Cette jeunesse qui n'a aucune perspective ni économique ni culturelle, qui développe une sensibilité très forte à la destruction du vivant, trouve un canal libérateur et une source d'espoir dans le fait de se retrouver dans la rue, de partager les mêmes rages et les mêmes aspirations. Azadekian poursuit.
Ça a provoqué une colère, mais alors inouïe au sein de la population, et en particulier cette jeunesse qui est très éduquée, puisque le taux d'alphabétisation de ces jeunes-là en Iran, c'est-à-dire âgés de 6 à 24 ans, avoisine les 100%, qu'il y a plus de 4 millions d'étudiants dans les universités iraniennes, dont une majorité d'étudiantes. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le nombre des femmes hautement instruites en Iran a dépassé le nombre des hommes hautement instruits. Tout ça, ce sont des réalités de cette société très moderne qui a aussi des revendications modernes. Et cette société devenue moderne ne tolère pas qu'une personne, en l'occurrence le guide, décide pour l'ensemble de la population.
Cette génération n'a connu ni la révolution, ni la guerre contre l'Irak. Événements qui ont soudé l'identité iranienne à la République islamiste. Elle n'a pas connu non plus la terreur des années 80, qui en parallèle assurait au pouvoir de faire disparaître les oppositions. La jeunesse s'est éduquée aux mécanismes mis en place par le néolibéralisme et le patriarcat. Elle réfléchit aux oppressions qu'elle subit. Elle est inspirée par les prises de position féministes qui forgent sa compréhension des rapports de domination qui traversent nos sociétés. Et pendant tout ce temps, le fossé se creuse avec ce pouvoir archaïque. À titre d'exemple, le taux d'alphabétisation des femmes a grimpé de 35 à 82% quand leur participation à la vie professionnelle n'est passée que de 13 à 15%. La frustration née de ce décalage n'a été ni entendue, ni apaisée, ni résolue, malgré plusieurs soulèvements de grande ampleur, en 2009 avec le mouvement vert, et presque annuellement depuis 2017 avec des mouvements contre la vie chère et des surgissements féministes. Comme le confie Mazanin à Yati Bazarslam pour France Culture, c'est parce que nous sommes devenus un peuple libre et éduqué que l'État nous emprisonne. C'est aussi ce qui explique que cette révolte soit tant porteuse de libération collective et d'émancipation personnelle. La delphisation en cours est flagrante, les femmes qui brûlent leur voile dans les flammes et tapissent le sol de leurs cheveux, les embrassades entre les jeunes dévoilés et les femmes plus âgées qui le portent encore, les écolières, qui entre fou rire et cris de joie, piétinent le portrait de Khomeini qu'elles sont contraintes de voir tous les jours accroché au tableau de l'école. Cette explosion de colère, de joie et d'amour sororal, porte aussi l'héritage des luttes iraniennes, malgré un pouvoir totalitaire en place depuis 43 ans. Retour avec Shahal Ashafiq sur l'avant 1979 et la révolution qui a vu Khomeini parvenir au pouvoir.
Le dernier Shah, il pensait que la religion pourrait être une force contre le développement de la gauche, puisque lui, il pensait qu'il avait le contrôle de l'autorité religieuse. Mais il n'avait pas une idée de ce qui se développait dans les underground, ça veut dire là où le discours islamiste était en train de se propager dans la société. Ça a profité finalement à l'islamisme. Le religieux, l'élément religieux a eu une place très importante. C'était la seule force idéologique quelque part qui avait des tribunes dans les mosquées, dans les écoles, etc., 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 partout. Alors que les autres forces, que ce soit la gauche, les démocrates, etc., elles étaient interdites. Puisqu'il n'y avait pas la liberté politique. Il y avait toutes les libertés civiques, mais il n'y avait pas la liberté politique. Le résultat était que la seule tribune populaire était laissée aux religieux. La gauche était complètement inconsciente, et même les démocrates et les libéraux, du danger de l'islamisme. Elle disait, c'est pas grave, c'est la religion du peuple, et c'est nous qui avons la hégémonie à l'université, chez les intellectuels, chez les classes moyennes instruites, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur. Pour nous, ces islamistes n'étaient pas du tout importants. C'est nous qui étions les premières forces politiques du pays. Finalement, les islamistes ont pris le pouvoir et après, ils ont réprimé toute la gauche et tous les libéraux. Ils ont tué des milliers de ma génération dans la prison. Et ils ont vraiment instauré leur pouvoir dans le sang. C'était affreux. Il y avait un bain de sang dans le pays. Toute une jeunesse était en train de se faire massacrer. Moi, je me rappelle très bien que nous pensions que le féminisme était un produit occidental pas très intéressant. Pour nous, c'était plus le socialisme qui allait régler tous les problèmes de la femme. Mais les féministes existaient dans la Révolution. Il y avait des groupes féministes, mais elles n'ont pas été écoutées par les autres femmes, si vous voulez, les autres hommes de la gauche. Puisqu'on disait que ce n'est pas très important comme problématique, c'est le socialisme qui est le plus important, la question des femmes est secondaire. Une des premières choses qu'a fait Khomeini était d'appeler les femmes au voile, en disant « venez dans les lieux de travail avec le voile ». Et quand les femmes sont descendues dans la rue, des milliers pour protester, les groupes de gauche et les groupes de libéraux et tout ça, ils n'ont pas bougé. Ils ont dit aux femmes, rentrez chez vous, ce n'est pas la question révolutionnaire. En 1979, le 8 mars, il y a eu une grande manif des femmes contre le voile obligatoire qui a été réprimée et que les leaders de gauche et les leaders des démocrates et des libéraux ont complètement nié, ignoré. Mais, puisque comme Khomeini disait, ni Orient ni Occident l'islam, dans cette révolte, elle disait par exemple la liberté n'est ni occidentale ni orientale, c'est universel. Et un des autres slogans était « Nous n'avons pas fait la révolution pour revenir en arrière ». Donc c'était vraiment une prise de conscience très intelligente. Donc il y a cette expérience féministe. Mais malheureusement, ça n'a pas été écouté. Et c'est dans l'exil que je les ai trouvés. Quand je suis venue en exil, comme j'étais assez traumatisée par cette aveuglement, comment ça se fait que je n'avais pas compris? Pourquoi moi qui lisais beaucoup, qui étais dans les débats, comment ça se fait que je n'avais pas compris? Et ça, la nouvelle génération a beaucoup apprécié après. En fait, il y a eu une sorte de transmission après coup. Les nouvelles générations féministes maintenant reviennent beaucoup à cette manif. Les hommes islamistes nous disaient à l'époque dans les rues, Yarousari, Yatousari, ça veut dire soit le raclet, soit le voile. Soit on vous donne les coups sur la tête, soit le voile, choisissez. Et aujourd'hui, hier, j'ai entendu dans une manif à l'université les jeunes femmes qui disaient ni le raclet, ni le voile, nous voulons la liberté. C'est exactement ce que nous disions à l'époque, ou notre génération disait à l'époque. Donc il y a un pont, c'est très intéressant de voir que la nouvelle jeunesse iranienne revient sur les questions des femmes et la question du genre, parce qu'il y a aussi des problématiques de la discrimination homophobe, parce que la loi islamique qui est imposée par la République islamique, c'est à la fois sexiste, homophobe et transphobe, etc., etc. Et petit à petit, dans les nouvelles générations féministes en Iran sont devenues très sensibles à cela. En fait, le féminisme est devenu une des problématiques majeures de la société iranienne, alors que pour ma génération, elle était absente.
La jeunesse iranienne a réussi l'exploit de faire comprendre que toutes les oppressions sont liées et d'entraîner dans la révolte tout un pays.
Beaucoup d'Iraniens et Iraniennes aussi d'ailleurs se rendent compte qu'on ne pourra jamais atteindre la démocratie et la liberté si les femmes n'ont pas égales aux hommes et si les femmes ne sont pas considérées aussi, pas seulement au regard de la loi, mais en réalité par les sociétés comme égales aux hommes.
Exiger l'égalité homme-femme implique ici le renversement du régime qui a fait de l'oppression de genre l'un de ses piliers. Cette revendication ô combien radicale trouve un écho partout à travers le slogan « Abat la dictature ». La révolte s'empare très vite de la perspective de faire chuter le régime, avec des mots d'ordre très clairs. Ceci est notre dernier message, nous voulons reprendre le pouvoir. Ou encore, les mots-là doivent dégager. Certes, cette jeunesse paye le prix du sang, et nous ne devons pas l'oublier. Un minima 250 personnes ont déjà été tuées par le régime, dont une cinquantaine de mineurs. Pourtant, Malgré le danger, malgré la peur, la jeunesse reste dans la rue. Par son désir de pouvoir choisir, elle ouvre des portes d'émancipation collective. Par sa détermination exemplaire, elle démontre sa puissance et la transmet à ses aînés. Nous verrons dans le prochain épisode comment, dans une sorte de seconde phase de la révolte, la jeunesse transmet son désir et son espoir de voir le régime tomber. Quelles stratégies sont mises en place malgré la répression sanglante et comment la grève s'étend à différents secteurs professionnels. Ce sera aussi l'occasion de comprendre comment ce mouvement révolutionnaire nous invite de manière globale à construire un mouvement antipatriarcal résolument internationaliste.
Les gens, les populations qui sont en train de mener la révolution, elles sont en train de découvrir leur propre pouvoir. En fait, c'est un spectacle de pouvoir, de sans-pouvoir. Et cette découverte est très importante pour un processus révolutionnaire. Les gens sont en train de découvrir leur propre pouvoir.
Gidim jin ne beji yanna be jin jiyan azadi jin ne beji yan şine jin jiyan azadi jin jiyan azadi jin jiyan azadi jin jiyan azadi jin jiyan azadi.
C'était l'actu des oubliés. Un grand merci à Azadeh Kian et Shahla Shafik que nous retrouverons pour le quatrième épisode. En termes de médias, vous pouvez suivre l'actualité de la révolution en cours sur des sites tels que Middle East Eye, le Conseil national de la résistance iranienne ou encore rojava.info. Pour des analyses du mouvement, vous pouvez consulter encore Slate et Révolution Permanente ou Lundi Matin. Enfin, plus poétique, La jeune fille et la mort de Mariam Majidi, publié dans l'Humanité.
Tucarına bedin desti em behevre bejin jin jiyan azadi.
En termes de musique, vous avez d'abord pu écouter Jiyan Beats de R. Kudim. Ensuite, Shatar Shamanigol avec Jin Jiyan Azadi, la rappeuse iranienne Justina et actuellement le chant kurde Jin Jiyan Azadi.
Em le bendan bishkinin jin ne bejiyan na be jin jiyan azadi jin ne bejiyan şine jin jiyan azadi jin jiyan azadi.